Vous écoutez Les Petits Caractères, le balado d'options consommateurs qui vise à poser un regard critique sur les enjeux de consommation qui vous préoccupent. Ici Marianne Speer, votre animatrice. Je vous souhaite la bienvenue et je souhaite également la bienvenue à Sarah-Ève Levac, conseillère juridique et avocate chez Options Consommateurs. Bonjour Sarah-Ève.
Bonjour Marianne.
Aujourd'hui, on débute l'épisode avec la chronique. Chronique sur la langue française, c'est bien ça?
Oui, aujourd'hui, on va parler des droits des consommateurs en vertu de la Charte de la langue française.
Je vais faire attention à ma prononciation durant cette chronique.
Oui, donc au Québec, le consommateur a le droit d'être informé et servi en français. Et ça, ça se découle par une panoplie de droits d'avoir des informations en français à différentes étapes de l'achat d'un bien puis de la relation avec un commerçant. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que si, par exemple, je m'achetais une machine à café, j'ai le droit de demander que le vendeur en magasin s'adresse à moi en français pendant que je magasine et me donne des informations en français. Mais c'est plus large que ça. Ça va aussi, c'est plus que la relation directement en magasin avec le commerçant et le consommateur. Ça veut dire que la plupart, en fait, pas mal toutes les informations qui sont fournies par le commerçant doivent être disponibles et accessibles en français au consommateur.
Je pense notamment au... j'ai quelqu'un qui m'a parlé de ça, un ami dernièrement, qui avait reçu un contrat à signer, tu sais, les contrats électroniques. Mm-hmm. Puis la plateforme, tu sais... lui disait « vous avez un contrat à signer, etc. », mais en anglais. Est-ce que ça, ça en fait partie?
Oui, on va en parler, effectivement. Ah oui, les contrats doivent être fournis en français aux consommateurs et c'est seulement si le consommateur et le commerçant sont d'accord qu'après, il peut avoir une version en anglais ou dans une autre langue qui s'applique. Mais il faut fournir premièrement une version en français aux consommateurs au Québec.
Comme le contrat était rédigé en français, mais c'est vraiment la plateforme de signature électronique que ça disait, par exemple, « you need to sign this document ». C'est juste ça.
Oui, c'est ça. Mais tous les sites web aussi doivent être disponibles en français. Dans le fond, les informations sont données aux consommateurs dans la relation commerçant-consommateur doivent être disponibles en français.
Okay.
Si je reprends l'exemple de ma machine à café, le vendeur doit pouvoir m'informer en français. Et si je suis en magasin puis il y a des soldes ou il y a une politique d'exactitude des prix ou il y a une politique d'échange et remboursement, mais ça aussi, ça doit être affiché en français là, en magasin.
Parfait.
Puis, mettons que je veux acheter ma machine à café, je trouve rien qui m'intéresse en magasin, je m'en vais regarder en ligne, mais le site web aussi doit être disponible en français, donc je dois pouvoir avoir une version en français qui est accessible pour faire le magasinage. Une fois que j'achète ma machine à café, puis que je la reçois, disons, par la poste, donc l'emballage doit avoir des informations en français, le produit doit avoir des informations en français sur le produit, les inscriptions doivent être disponibles en français. Même chose pour le mode d'emploi là, qui vient avec. Donc, si je peux donner un exemple, là, j'avais acheté une machine à café, OK? Puis quand je l'ai reçue, les inscriptions sur la machine elle-même étaient en anglais. Et on me fournissait des autocollants pour mettre par-dessus les instructions en anglais pour les fonctionnalités en français. Pourtant, la loi va dire que les inscriptions sur le produit, les informations qui accompagnent le produit, peuvent pas être accessibles plus favorablement dans une autre langue que le français. Donc, d'inscrire tout en anglais sur le produit en me fournissant des autocollants, je sais pas, en fait, moi, j'avais l'impression que c'était moins favorable. Voilà, les inscriptions doivent être en français sur les produits.
Okay. Fait que ça peut pas être comme écrit en gros en anglais puis en petits caractères en français.
Non, c'est ça aussi. Comme le mode d'emploi, bien, le mode d'emploi ne peut pas être moins facilement accessible en français que dans une autre langue. Donc, je ne peux pas avoir un texte en taille 40 en anglais, puis en taille 10, donc en pâte de mouche en français.
Ça me fait penser, je pense que j'ai vu certains articles où est-ce que, justement, il va y avoir des informations en anglais, puis un code QR pour aller voir les informations dans une autre langue, peu importe laquelle.
Oui, c'est ça. Bien, je ne suis pas au courant de décision qui aurait pris position justement sur la notion de ce qui est plus favorable, mais on pourrait penser qu'avoir le manuel d'instruction seulement en anglais et devoir faire des étapes supplémentaires pour aller, par exemple, sur le site web ou appeler pour avoir une version en français, ça pourrait être considéré comme des conditions moins favorables pour accéder à la version en français.
Je comprends.
On a parlé un peu du contrat tout à l'heure, donc le contrat doit être en français. Puis non seulement ça, mais si j'ai une version qui est en français et en anglais du contrat, bien, va falloir l'interpréter de façon qui est en faveur et plus favorable aux consommateurs s'il y a des divergences entre les deux contrats. Par exemple, si j'achète une table et des chaises en ligne, en anglais, on va me dire que c'est la table puis il y a une chaise qui vient avec. Puis en français, dans le contrat, c'est écrit une table et quatre chaises. Mais si je l'interprète de façon favorable au consommateur, en fait, ce que j'ai le droit, c'est une table et quatre chaises, et non une table et une chaise, ce qui est prévu dans le contrat en anglais.
Ça fait une différence sur un design.
Oui.
Ça, je devrais pas prendre un mot en anglais. C'est une chronique sur la langue française. Mais bon.
Puis, si je poursuis là, dans mon histoire avec ma machine à café, si ma machine à café brise, qu'elle est défectueuse, j'ai des problèmes avec, qu'il manque une pièce, etc., ben là aussi, si je veux m'adresser aux commerçants, ben le service après-vente doit être disponible en français pour les consommateurs.
Mmh. OK. Excellent. Est-ce qu'il y avait d'autres aspects?
C'est oui, ben si jamais les consommateurs constatent qu'ils ne sont pas en mesure de se faire servir en français ou être informés en français ou d'avoir des informations en français, on peut s'adresser à l'Office québécois de la langue française si on veut déposer une plainte sur une situation. Faut toujours être indulgent aussi, là. C'est pas parce qu'il y a une faute d'orthographe là, dans un mode d'emploi ou que quelqu'un nous répond avec une grammaire approximative au restaurant qu'il faut nécessairement faire une plainte. On peut s'adresser aux commerçants pour signaler la situation aussi. Mais l'Office de québécois de la langue française est là pour surveiller l'application de la charte. Donc, on peut toujours les contacter là, s'il y a une situation problématique.
Okay. S'assurer qu'il n'y a pas d'abus.
Oui.
Bon, ben excellent. Merci beaucoup, Sarah.
Merci.
On poursuit avec Sylvie de Bellefeuille, avocate chez Option Consommateur. Bonjour Sylvie.
Bonjour Marianne.
Tu veux nous parler des résolutions de remise en forme, c'est ça?
Ben oui, je pense que ça nous est tous déjà arrivé là, avec le début de l'année qui commence. On a parfois un petit peu abusé pendant la période des fêtes. Alors, je pense que c'est une résolution assez courante de dire au début janvier, on se remet en forme, voire on va vouloir perdre quelques kilos.
On se prépare pour sortir de l'hibernation.
Exactement. Alors, on va regarder ça sous deux angles.
OK. Pour éviter de ne pas se faire avoir en tant que consommateur là, dans cette résolution-là.
Bien, tout à fait. Puis, soyons honnêtes, on part avec des bonnes intentions, mais combien parmi nous vont vraiment aller jusqu'au bout et conserver ces bonnes habitudes? Ça, c'est une autre... des fois, c'est une autre paire de manches.
J'aime ton honnêteté, Sylvie.
Donc, la première chose qu'on peut peut-être vouloir faire, c'est s'équiper à la maison. Vouloir s'acheter, que ce soit un vélo stationnaire, un tapis roulant ou des choses comme ça. Donc, c'est quand même un investissement qui peut être assez important.
Oui.
Je pense que on connaît tous quelqu'un qui a un vélo stationnaire ou un tapis quelque part dans un sous-sol qui prend la poussière aussi. Mmh. Donc, la première étape, c'est de voir quels sont réellement nos besoins. Quel genre de vélo, quel genre d'appareil je veux utiliser? Ça peut aussi être en lien avec notre niveau de la forme physique ou à quel point on est habitué ou pas de faire des exercices. Si on est vraiment débutant, peut-être que ça ne vaut pas la peine de prendre le tapis avec le plus de fonctions et le plus luxueux possible. Peut-être qu'un tapis de base va faire le travail et si on aime vraiment ça, on pourra éventuellement changer pour quelque chose de plus performant. Donc déjà, de faire une certaine sélection.
Je sens que Joanne, là, notre conseillère budgétaire, elle aimerait entendre ce que tu dis, dialogue modération, d'être honnête avec ses besoins.
Bien, je pense que oui, puis c'est important parce que des fois, on peut se sentir un peu sur l'adrénaline.
Enthousiasmé,
ouais. On est enthousiasmé pour... on veut vraiment bien se lancer, bien commencer. Alors, ça peut être une très bonne chose. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Mais si on n'est pas certain vraiment de son achat, peut-être que ça vaut la peine de faire attention. On ne se le cachera pas, il y a énormément de publicité au début de l'année aussi. Là, la plupart des magasins, souvent les pisciniers vont pendant la période d'hiver nous vendre des produits de ce type-là aussi. Donc, il peut y avoir beaucoup de promotions. Alors, ça peut valoir la peine de magasiner également. De voir est-ce qu'on a l'espace pour garder un tapis roulant ou un vélo stationnaire quelque part, à moins qu'on tienne absolument à garder ça dans une décoration dans notre salon. C'est le genre de choses qu'on peut vouloir quand même considérer.
Ça peut amener une décoration tout à fait différente.
Ah, absolument, absolument. Autre chose qui est importante, mais c'est de vérifier les fameuses politiques d'échange et de remboursement. Je pense qu'on en a déjà parlé plusieurs fois dans notre balado, mais juste un petit rappel que c'est pas obligatoire pour un commerçant de nous rembourser si on a changé d'idée. Alors, si on n'est pas tout à fait certain de son achat, c'est important de vérifier s'il y a une politique d'échange et de remboursement et de voir aussi si cette politique-là a des exceptions. Dans bien des cas, les produits qui sont offerts en promotion ou en liquidation pourraient ne pas être compris dans la politique. Alors, juste au moins en être conscient de cette façon-là, ça pourrait nous guider dans le choix et le choix de notre appareil ou à quel endroit on va vouloir l'acheter.
Puis je me demandais, est-ce que c'est éthique pour un commerçant de, par exemple, afficher le même produit, mais plus cher avec l'option qui peut être remboursée, puis moins cher avec le fait que cet article n'est pas remboursable?
J'ai jamais vu cette pratique-là, mais normalement,
je pensais aux billets d'avion. Ça n'a juste pas vraiment rapport avec notre sujet, mais c'est ça qui m'est venu en tête.
Bien, pour les billets d'avion, c'est un peu différent. Okay. Encore faut-il avoir vraiment... le principe, ça doit être un prix tout inclus. Donc, si je peux avoir le produit de base au prix annoncé, c'est correct. Mais si on m'offre des bonus, par exemple, le fait que le siège est dans une catégorie plus élevée, si je veux avoir une première classe ou une... ça peut être plus cher, ou si on m'offre un billet remboursable moyennant des extras, là, ça, c'est autre chose.
Okay.
Mais ce genre de promotion-là, habituellement, on ne les voit pas sur des produits qu'on va vendre, qu'on va pouvoir acheter en magasin.
OK.
L'autre chose que bien des gens pourraient être tentés de faire, ben, c'est de se tourner vers l'Internet, acheter peut-être un produit usagé.
Mais ça me fait vraiment rire qu'on parle de ça. J'avais comme pas réalisé avant qu'on embarque dans le sujet, mais ma mère s'est acheté un... c'est pas une elliptique, là, mais quelque chose pour s'entraîner chez elle la semaine dernière sur Marketplace. Puis j'ai eu vraiment peur. Je me suis dit, maman, tu sais pas si tu peux te faire mal, c'est usagé, c'est un gros... Tu sais, c'est des grosses machines, là, fait que j'ai hâte de savoir ce que tu vas dire là-dessus.
Bien, c'est pas nécessairement toujours un mauvais achat, parce qu'on se le cachera pas, il y a bien des gens qui vont s'acheter un appareil, vont l'utiliser 2-3 fois et ça va aboutir dans un coin d'une pièce et ne plus être utilisé. Donc parfois... ce qu'on va retrouver sur le marché, c'est des produits qui sont presque neufs, qui n'ont pratiquement pas été utilisés.
C'est vrai!
Et on pourra avoir peut-être des prix qui sont plus intéressants que des prix qui sont vendus neufs. Par contre, il faut quand même être prudent, ne pas envoyer de l'argent, par exemple, pour réserver un vélo stationnaire qu'on va aller voir parce que la personne dit avoir beaucoup d'offres. On ne se le cachera pas sur les médias sociaux. Il y a des fraudeurs aussi qui peuvent essayer de profiter de la situation. Alors, si vous voyez un produit qui vous intéresse sur les petites annonces sur Internet ou dans un journal, pour ceux qui utilisent encore ça, ben, ça peut être important d'abord d'aller voir l'appareil, de le tester, pas juste de regarder, mais de monter dessus, de voir est-ce que l'appareil fonctionne bien avant de faire l'achat. Donc, c'est toujours pour faire attention, ne pas se faire avoir, justement.
Bon. Ben là, ça fait une semaine qu'elle a son appareil, puis juste la première journée, elle a fait 3 séances de 15 minutes et l'appareil fonctionne. Donc, je suis rassurée là-dessus.
Merveilleux!
Mais il n'y a pas de politique d'échange et de remboursement sur des produits usagés.
Non, ben tout à fait. Il faut se rappeler aussi que quand on a un contrat en particulier, c'est pas la loi sur la protection du consommateur qui va intervenir si jamais on a un pépin avec le vendeur.
Ah ouais?
Parce que on n'est pas dans une relation entre un commerçant et un consommateur, on est dans une relation entre deux particuliers. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de recours s'il y a un pépin, ça veut seulement dire que dans ce cas-là, on va devoir se tourner vers les règles générales du Code civil, donc qui sont quand même existantes. On peut quand même bénéficier de certaines garanties, parce que plusieurs garanties qui sont offertes ou qui sont imposées par la loi aux fabricants sont transférables même lorsqu'on achète d'un particulier. Alors, cette partie-là pourrait toujours s'appliquer, mais il y a toujours un risque de preuve aussi parce qu'on ne sait pas comment l'appareil a été utilisé, on n'a pas de contrôle sur qu'est-ce qui a été fait par le propriétaire précédent. Donc, il y a quand même un petit risque, mais parfois la différence de prix peut valoir la peine.
Vraiment, définitivement. Parfait. Puis sinon, il y a les fameux studios de santé aussi, les gyms.
Exactement. Donc, s'abonner dans un gym, ça peut être une autre option qui peut plaire à plusieurs personnes. Là encore, ce qui est important avant même de commencer à magasiner ça, bien de voir c'est quoi les services qu'on veut réellement. Est-ce qu'on veut s'entraîner une ou deux fois par semaine? Est-ce qu'on veut avoir les services d'un entraîneur? Donc, il y a vraiment différents types de services qui vont être offerts par les gyms pour pouvoir essayer de sélectionner ce qui va correspondre à nos besoins et surtout à notre budget également. Dans le magasinage, une chose qui est super importante de vérifier, c'est de voir si le studio de santé a un permis.
Ah oui, il y a des permis de... faut avoir un permis pour avoir un gym?
Absolument. Il faut avoir un permis. Ce permis-là est délivré par l'Office de la protection du consommateur, donc l'OPC. Et ça, c'est une vérification qui est très facile à faire. On va sur le site Internet de l'Office. On peut faire une recherche avec le nom du commerçant, donc le nom du gym. non seulement on va pouvoir vérifier si le commerçant en question a un permis, mais on va pouvoir voir s'il a fait l'objet de plaintes par d'autres consommateurs qui ont transmis l'information à l'office ou si l'office a émis des constats d'infraction. Donc déjà, ça peut nous permettre de faire une présélection. Si vous choisissez un gym qui a déjà plusieurs drapeaux rouges, peut-être que ça peut valoir la peine de passer au suivant. Mmh.
Puis pour les entraîneurs, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a un registre des entraîneurs?
Ça, pas ma connaissance. On parle vraiment plus d'entraîneurs qui seraient affiliés à un gym. Si c'est un entraîneur personnel, ça, c'est un autre...
Une autre chose complètement.
Ici, je parle vraiment de services qui seraient offerts dans le cadre par un commerçant qui offre différents services à ce niveau-là.
Qui a pignon sur rue.
Exactement. Okay. Vérifier également c'est quoi les différents programmes qui sont offerts. Et de voir aussi, il peut y avoir différentes variétés dans, même si c'est juste d'aller, par exemple, s'entraîner deux fois par semaine. Parfois, on va avoir différents niveaux de prix selon les heures à laquelle on va fréquenter le gym.
T'es pas sérieuse? J'ai jamais vu ça.
Ben, c'est que si on va avoir accès...
Je me suis pas abonnée à beaucoup de gyms non plus, mais...
Donc, par exemple, un gym peut avoir certaines heures d'ouverture, par exemple, de 6 heures le matin à 10 heures le soir, mais d'autres gyms vont dire, ben, vous pouvez avoir accès aux installations 24 heures sur 24, mais il faut payer un petit extra pour ça. Mm. Alors, vérifier, est-ce qu'on veut payer plus cher pour avoir accès en dehors des heures normales du gym, par exemple? Si j'ai l'intention de faire mes exercices uniquement deux jours, peut-être que ça ne vaut pas la peine d'avoir les services 4 étoiles pour pouvoir y aller la nuit si je n'ai pas l'intention d'utiliser ces services-là.
Mmh. Tout à fait.
Il faut savoir que lorsqu'on s'abonne à un gym, on a un contrat. Et il y a une obligation par le commerçant de nous fournir un contrat par écrit. Ce contrat-là, doit compter un certain nombre d'informations. J'en ferai pas la liste complète, mais parmi les informations, il doit y avoir justement le numéro de permis. On va avoir l'adresse du commerçant, l'adresse de l'installation, parce que ça peut ne pas être la même adresse, les différents services qui sont offerts, le coût total et les modalités de paiement. Donc ça, c'est un autre élément qui va être vraiment important.
Puis les modalités de paiement, c'est quoi exactement?
Bien, est-ce qu'on doit payer, dans combien de versements est-ce qu'on doit payer? Et ça, c'est une chose qui est super importante. Lorsqu'on a un contrat qui est d'une durée de plus de 3 jours, là, ce qui habituellement est le cas pour la plupart des gyms, on ne peut pas avoir un paiement total au départ avant même d'avoir fourni les services.
Ah ouais?
Et lorsqu'on a un contrat sur une certaine période, ben, ce qu'il faut, c'est que les modalités doivent être au moins sur 2 versements.
Ah, ouais!
Donc, si par exemple, j'ai un contrat pour 1 an, ben, on ne pourra pas me demander de payer toute mon année en un seul coup. On peut me le demander en 2 versements, mais ça va être pour le premier 6 mois, puis par exemple, la deuxième moitié pour l'autre mois.
OK.
Moi, je vous dirais de façon générale, si tu t'abonnes pour 1 an, si c'est possible, moi, je te dirais, c'est d'y aller pour le paiement au mois.
Mm-hmm.
Parce que, on va le voir tantôt, on a aussi des fois des possibilités de pouvoir y mettre fin. Si je décide de ne pas faire mon année au complet pour toutes sortes de raisons, ça peut être difficile de retrouver mon argent après, puis d'aller, même si le commerçant, théoriquement, a l'obligation de me rembourser, des fois, ça peut être un petit peu plus difficile de récupérer son argent. Alors, en faisant le paiement au mois, ça va pouvoir faciliter les choses si ce genre de modalité de paiement est offerte par le gym.
Puis est-ce que le gym a le droit de mettre un facteur modal sur le fait qu'on paye mensuellement, fait que c'est plus cher par mois que de payer en 2 versements?
Bien là, ça dépend vraiment de ce qui est offert. Donc, okay. Oui, ça, c'est pas interdit en soi.
OK. Mais, fait que des fois, pour des raisons budgétaires, on pourrait se dire, ah, c'est mieux que je le paye en 2 versements, je sauve, disons, 15-20 $, mais ça peut être plus compliqué si on veut résilier l'abonnement.
Exactement.
Pour se faire rembourser la partie qu'on n'a pas utilisée.
Exactement. Okay. Donc, c'est un principe du bien.
OK. Excellent.
L'autre chose aussi qui est importante de savoir, c'est que parfois, il peut y avoir des contrats avec un renouvellement automatique. Donc, au bout d'une année, automatiquement, tu continues d'être membre. Ça, il faut savoir que ça, c'est pas légal dans un cas d'un contrat de gym. Une autre clause qu'on voit souvent dans certains contrats, c'est des clauses où on va dire qu'on n'est pas responsable s'il y a des blessures corporelles.
Mm-hmm.
C'est une clause qu'on voit assez souvent, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Code civil interdit ce genre de clause-là. On ne peut pas, à l'avance, dire qu'on ne sera pas responsable pour des dommages physiques. Par contre, la façon que ça peut être interprété, toutefois, c'est plus un espèce de signal, un espèce d'avertissement. C'est sûr que si moi, j'ai jamais fait d'exercice de ma vie, et là, je vais me lancer là, pour faire de l'exercice à un niveau élevé, puis j'essaie de soulever des poids qui sont bien au-delà de ma capacité, bien, il y a des chances que je me blesse. Mais ça, ce ne sera pas la faute du gym, c'est ma faute parce que je n'ai pas respecté mes propres capacités. Donc, à ce niveau-là, ce genre de clause-là est quand même, serait tout à fait correct. Mais par contre, si le gym est négligent dans l'entretien de ses appareils et je me blesse parce que l'appareil était mal entretenu, ben là, ça, c'est vraiment la responsabilité du gymnase en question.
Ouais, c'est de la négligence, là.
Tout à fait. Donc, ça, c'est les règles de base, je dirais, pour la signature du contrat. Alors, on essaie, on peut peut-être suivre notre programme qu'on s'était donné pendant un certain temps et finalement, on se rend compte peut-être après un petit bout que peut-être que ça ne nous convient pas ou qu'on n'a pas le temps ou que la motivation n'a peut-être pas suivi. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'on peut mettre fin à notre contrat? Il faut savoir que selon la loi sur la protection du consommateur, il y a différentes règles qui peuvent s'appliquer. Si je change d'idée avant même que le commerçant ait commencé à m'offrir le service, il n'y a pas de frais. Mais là, il faut faire attention. Si c'est un gymnase, par exemple, où j'avais accès n'importe quand, bien, le fait que je ne sois pas allé au gymnase, que j'en ai pas profité, bien, ça c'est pas la faute du commerçant. Là.
OK.
Donc, ce qui va vraiment compter, c'est à partir du moment où on va me permettre l'accès aux installations. On va considérer que le commerçant, de son côté, a rempli son obligation.
Sa partie du contrat.
Exact.
Alors, je parle de plus en plus comme une avocate, je trouve, depuis que j'anime ce balado-là.
Ah, ben c'est bon!
Parfois. C'est bon.
L'autre situation, c'est que je peux me rendre compte assez rapidement que, finalement, les exercices que j'ai choisis ne me conviennent pas. Alors, si j'annule mon contrat ou je veux y mettre fin, dans le premier dixième du contrat, à ce moment-là, la pénalité que peut me facturer le commerçant, c'est uniquement le dixième de la valeur du contrat.
OK.
Et à ce moment-là, le contrat va prendre fin, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si, en cours de route, par exemple, à la moitié du contrat, je décide d'arrêter parce que, par exemple, mon horaire ne me permet plus de faire les activités, ne me permet plus de le faire, ou parce que mon médecin m'a envoyé un petit billet de comme quoi, peut-être que j'ai abusé un petit peu de la chose. Mais il faut savoir que ce ne sera pas la loi sur la protection du consommateur qui va régler la question, c'est plutôt des règles générales du Code civil. Je vous dirais, c'est un peu la règle du gros bon sens.
OK.
Donc, ce que le commerçant
va... C'est plus accessible, dit comme ça.
ce que dit la loi, essentiellement, à ce niveau-là, c'est que, bien entendu, le commerçant a le droit d'être payé pour les services qu'il a rendus ou qu'il a rendus accessibles pendant la période, donc au moins pour le 6 mois auquel j'ai pu bénéficier des services. Et si jamais il arrive à démontrer que le fait que j'arrête lui pose un dommage, il pourrait demander un petit montant supplémentaire. Mais okay. Là, ce sera à lui de démontrer là, que le fait que j'arrête lui pose un dommage.
OK. Puis quand on demande notre résiliation, on peut le dire simplement verbalement, on envoie un avis écrit?
Bien, habituellement, on dit souvent, les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est toujours mieux de le faire par écrit. Idéalement, un écrit dont on peut prouver qu'on l'a envoyé. Alors, ça peut être un courriel, mais ça peut être aussi un courrier recommandé. Et ça prend effet à partir du moment qu'on a envoyé l'avis. Et si on a payé à l'avance pour certains services, bien évidemment, la contrepartie, c'est que le commerçant va devoir nous rembourser.
Excellent. Donc, on oublie le pigeon voyageur dans le cas de la résiliation d'un abonnement au gym. Merci beaucoup, Sylvie. Merci à la maison de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à visiter le site de Options Consommateurs ou bien nos réseaux sociaux. Bonne journée.